Flamme Parpaing
8 avec Antoine Dufeu et Valentina Trajanova chez eux à Paris le
14
novembre 2014.
Voilà, ça enregistre.
Ouais.
Et je me suis dit comment je vais démarrer, et je me suis dit je démarre avec cette question qui est absolument bête, et je vais m'en vouloir de te la poser, mais je vais te la poser quand même, elle est hyper conne. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Twingo?
Ah, j'aime beaucoup la nouvelle Twingo, ouais. Enfin, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas aimer, en fait, c'est pas la question. Je la trouve très intéressante. D'un point de vue... je crois qu'ils ont réussi le même coup qu'avec la première.
Tu penses?
Ouais, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire avec la deuxième, même si la deuxième s'est bien vendue, mais je veux dire, il n'y avait pas le côté affectif qu'il pouvait y avoir avec la première. Et puis non, enfin, c'est bien que Renault fasse une propulsion, comme la R8 à l'époque, ou comme comme la 4 chevaux. Enfin voilà, il y a une tradition de la voiture propulsion chez Renault, populaire. Donc j'en ai pas encore conduit, mais ça doit être assez rigolo. J'ai quelques collègues qui ont essayé la version TCE.
D'accord.
90 chevaux, qui est ce qu'il faut, je crois. Puis il y a même une GT qui est en prévision, donc ça va faire un peu un petit truc qui doit être assez sympathique à conduire. Et puis, non, c'est très intéressant parce qu'il y a un partenariat avec Daimler en plus sur cette voiture.
Ah, c'est vrai.
Ce qui fait que cette
dans
voiture.
Le moteur, ou
De mémoire, mais ça, il faudrait vérifier dans le détail. Je crois que entre les nouvelles Smart, donc Fortwo et Forfor, donc la première étant une deux portes et la deuxième une quatre portes. Et la Twingo, il doit y avoir 65% de pièces communes.
Ah, d'accord.
Alors, pour l'œil non aguerri, ça ne se voit pas du tout. Mais c'est surtout que c'est aussi très symptomatique d'un tas de choses et d'une économie que moi, j'aime bien étudier, quoi. Notamment par le biais de l'automobile, parce que je m'y connais un peu. Mais,
L'échange de compétences ou plutôt l'économie de moyens, quoi. De faire en sorte que cette histoire de jumelage ou de fusion entre les entreprises, c'est aussi une manière d'économiser,
de
faire en sorte que justement l'œil non aguerri ne puisse voir le dessous
des cartes. Oui, c'est ça, mais c'est surtout en même temps aussi ce qui est intéressant, c'est de... moi, je réfléchis pas mal alors l'économie classique, mais l'économie symbolique aussi, l'économie des noms, tu vois, par exemple, ce genre de choses, l'économie des marques. Est-ce que c'est qu'une marque, comment ça se distribue est-ce qu'il y a tout un discours aussi chez les entre les passionnés du coup automobile, ceux qui s'y connaissent ou qui sont censés s'y connaître sur ah oui mais on perd quelque chose, quoi. T'imagines quoi, une Renault qui est une Smart. Alors comment le client peut faire la distinction, parce qu'à un moment donné, on va lui dire oui, mais t'as Smart quand même, c'est jamais qu'une Twingo, quoi. T'imagines quoi, la honte, quoi. Enfin, tu vois, il y a tout genre de choses, ce genre de choses. Et du coup, moi, ça me dit beaucoup de choses sur... là je vais y aller fort, tu vois, je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense que la question du capitalisme, c'est absolument pas discriminant aujourd'hui. Je pense que c'est une très mauvaise grille d'analyse, complètement anachronique enfin si, c'est une grille intéressante pour qui veut faire du capitalisme,
tu veux développer,
mais pour qui ne veut pas en faire, je pense que c'est une grille absolument inepte et improductive pour le coup. Donc oui, je développerai en disant que parce que le capitalisme, ça vient quoi, ça vient d'où ce mot, enfin où est-ce qu'il est utilisé concrètement dans les écritures, le capitalisme? Bah, il est utilisé dans un, quand on est dans un bilan financier, il est utilisé dans la partie qu'on appelle le capital. Alors après, qu'on peut détailler, parce qu'il y a différents types de capitaux ou de capital entre guillemets. Mais ça, c'est s'intéresser à seulement une partie des écritures comptables, des écritures financières. Et au-delà de moi, ce que j'appelle la littérature financière ou la littérature écofi, éco-financière, quoi, économico-financière. Et le truc le plus intéressant, à mon sens, enfin l'un des trucs qui est très intéressant dans ces écritures, dans cette littérature, au contraire, ça serait, ou en plus, ou à côté, ça serait ce qu'on appelle le goodwill, qui est une notion encore relativement récente. Et le goodwill, en général, quand on met le nez dedans, c'est très compliqué. C'est bien plus compliqué que le capital, par exemple. Et ça implique beaucoup plus de notions et de rapports, je dirais, sociaux, de rapports, enfin différents en tout cas, plus, je ne sais pas si c'est le terme, c'est un peu vite, en tout cas des rapports différents et qui me semblent plus intéressants d'étudier pour justement pour essayer de parler d'autre chose que du capital et de faire dire autre chose à cette économie qui effectivement est un peu oppressante, c'est le cas de dire.
Mais tu penses que parler du capitalisme, c'est faire diversion par rapport à la main basse du capitalisme sur certaines choses de la vie de tout le monde, etc. Ou c'est juste un contresens ou un symptôme d'ignorance par rapport
Je pense que c'est anachronique. Et après, je pense que c'est malheureusement, quand on veut traiter d'un sujet, il faut le connaître un minimum. Moi, je suis un écrivain et je m'intéresse à la littérature, à l'écriture, etc. Il me semble que dans un monde qui est tout de même, enfin, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il est amplement déterminé par l'économie, enfin, appelons ça comme ça. C'est un minimum de savoir comment ça s'écrit, quoi. Et il se trouve que j'ai fait des études un peu là-dedans aussi et que j'ai rejeté tout ça à un moment donné, ou en tout cas rejeté, je sais pas si c'est le terme non plus, mais et puis j'y suis revenu parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses intéressantes là-dedans à comprendre. Et donc je crois que c'est... Oui, le capital, c'est pas discriminant, quoi. Enfin, si, ça l'est d'une certaine manière, mais aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, je trouve que c'est pas suffisant, quoi.
D'accord. Ouais. Je reviens juste, Valentina, tu veux dire quelque chose? Tu t'y connais en voiture, toi, autant qu'Antoine? Vous partagez ce truc ou pas du tout?
Moi, j'adore les Jaguars.
Ah, j'en ai vu une, j'ai vu un coupé hier, très beau aussi, des années 60, je crois.
Mais souvent, je les reconnais pas tout de suite. Je dis, ah, j'aime bien cette voiture, et j'en suis aperçue qu'à chaque fois, Antoine me dit, c'est une Jaguar. Et puis, c'est une Jaguar.
À chaque fois que tu dis que j'aime bien cette voiture, c'est une Jaguar.
Donc, tu dis,
c'est absolument faux. Elle est absolument passionnée par tout ce qui hurle, en fait, quoi. Tu vois, les Ferrari, les Lamborghini avec des moteurs hurlants, quoi. C'est vrai. T'aimes bien les Aston Martin, t'aimes bien... Les Jaguars, c'est la réponse typique de... Enfin bon, je vais pas faire mon misogyne, mais voilà, enfin... T'as pas dit vieille Jaguar, déjà, c'est pas mal.
Oui.
Ou les anciennes.
Non, c'est vrai que j'aime les voitures, oui, qui font du bruit et qui sont belles.
C'est marrant, ça, se faire du bruit. Et c'est marrant aussi que... Enfin, je parle de la nouvelle Twingo parce que t'as travaillé, t'as été journaliste pour la presse automobile en général ou pour un magazine en particulier?
Ça a dépendu des... Oui, j'ai toujours été pigiste, comme on dit. Et puis après, ces dernières années, j'ai travaillé pour essentiellement un organe de presse. Voilà. Mais...
D'accord. Quand je te posais la question par rapport à la Twingo, tu es revenu sur la première, tu as dit grosso modo que... Cette nouvelle annonçait une sorte de révolution, etc. Et je me souviens qu'au tout début, la première, je me souviens d'avoir lu un article sur la révolution Twingo et qu'elle était clairement pensée pour les femmes, enfin qu'il y avait tout un, le dessin, la conception, les couleurs, l'intérieur, le moteur qui n'était pas du tout hurlant, justement. Et je me souviens aussi d'avoir, donc l'entretien était avec le designer, le responsable du design et de la conception, enfin tu vois, de l'idée si tu veux, Twingo. Et lui, t'es plutôt ronglet aussi, enfin il dégageait pas du tout ce truc, c'était pas Eddie Sliman quoi, tu vois, c'était plutôt le bon vivant, la personne qui aime les bonnes chères avec une coupe de cheveux un peu à l'ancienne, enfin tu vois. Et je me suis dit, avec le restyling de la Twingo après, qu'on était revenu à quelque chose de plus masculin, enfin des lignes qui dégagent une plus grande masculinité. Enfin, et je pense que même cette nouvelle Twingo, elle annonce pas du tout la révolution que la première annonçait, justement.
Sûr, je suis d'accord, je me suis un peu laissé entraîner par ma passion tout à l'heure pour l'automobile, ou parce que je voulais parler de ce que je disais sur Daimler, etc.
Pardon, je finis juste. Ouais. Et pour juste faire le raccord avec ce qu'a dit Valentina là, et ce que vous avez dit sur le fait qu'elle aime les voitures hurlantes, etc. Est-ce que c'est pas aussi un parti pris masculin de toujours annoncer la couleur que par rapport au féminisme par rapport au goût féminin, et justement de dire que les femmes préfèrent ceci, préfèrent cela. Est-ce que c'est pas aussi tomber dans une espèce de carcan un peu vieux jeu? Que de dire que voilà, telle voiture correspond au goût féminin, telle. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, totalement, c'est pour ça que j'ai un peu taquiné Valentina en disant qu'elle aimait plein. Enfin, je sais pas, je peux parler à ta place, mais t'aimes bien les voitures.
Il y a une belle voiture. Ouais.
Non. Et pardon d'avoir commencé avec ce thème un peu bizarre. Mais voilà, je trouve.
Mais si tu veux, je peux te faire tout l'entretien là-dessus, parce que tu vois, par exemple, t'as raison en plus sur la première. Moi-même, j'ai fait un entretien avec Alain Bumblex, qui est un ancien de chez Renault. Et il m'a raconté plein de choses sur ce qu'il a travaillé sur la première Twingo. Et effectivement, quand tu regardes la première Twingo, tout de même, elle s'inscrit dans cette époque où il y avait des préoccupations de la part de Renault de créer de l'espace dans une voiture. Effectivement, la dernière, elle fait pas ça, quoi.
Pas du tout. Mais elle dégage pas ça du tout.
Non.
Et la première Twingo, elle dégage. C'est un peu un petit SUV, quoi. Mm-hmm. Elle dégage ce truc un peu d'habitacle confortable, limite familial, quoi. Mm-hmm. Carrément, c'est sûr.
D'accord.
Et puis le dessin des sièges, tout l'habitacle dégage quelque chose de très Lego Playmobil, en même temps Ikea, enfin il y a vraiment ce truc très très pas du tout criard et pas du tout et puis les couleurs, enfin tout ça, moi je trouve ça, la première Twingo m'a beaucoup touché, c'est vrai, m'a beaucoup touché, et je suis toujours un peu à la recherche de ça avec la Twingo, je sais pas pourquoi, de revenir à ce truc un peu cosy, quoi.
Mais je pense qu'on a tous, c'est ça les voitures aussi qui marquent, c'est que même Valentina, je crois, tu m'avais parlé de la première, je crois. Et moi aussi, j'ai des histoires avec la première, oui, c'est ça.
Vous partagez des projets en commun qui ont ce dénominateur en commun, l'argent ou la monnaie, l'idée de monnaie, de valeur C'est quelque chose qui parcourt un peu votre travail en commun aussi à tous les deux, ou c'est quelque chose qui a à voir que avec tes intérêts à toi en tant qu'écrivain, en tant que metteur en place de choses
Non, je crois que ça traverse aussi ce qu'on fait ensemble, nos discussions, tu vois, quotidiennes, enfin un peu qu'on essaye un peu de d'être, enfin. On les réfléchit un peu, quoi. Donc, non, ça traverse nos discussions. Et puis c'est vrai que moi, Valentina aussi, de rencontrer Valentina, ça m'a... Parce que Valentina est... Je ne sais pas si je peux le dire. Elle est, comme on dit, d'origine bulgare, enfin...
Je suis née en Bulgarie, à Sofia.
Et voilà, sous une période qu'on dit de communisme, dans un régime dictatorial, enfin je sais pas, on peut dire plein de choses comme ça. Et, Moi, j'ai découvert qu'il y avait un rapport à l'économie qui était complètement différent, et ça, j'ai découvert de près.
Et c'est quelque chose qui est présent dans votre travail ou dans ton travail? C'est quelque chose qui
Moi, je dirais que c'est plus présent dans ma vie, parce que surtout depuis que je suis venue en France, évidemment, l'argent, la question de l'argent me préoccupe, puisque le niveau économique n'était pas du tout le même duquel je venais. Et ensuite, c'est vrai que d'avoir rencontré Antoine, qui a des préoccupations aussi, à la fois dans ses recherches d'écriture et dans ses études, c'est devenu aussi, oui, un sujet de discussion qui questionne aussi nos projets dans l'art. Après, je pense qu'on joue beaucoup avec le langage abstrait que ça introduit, la lecture de ces questions autour de l'argent, mais que forcément traverse notre vie, la question aussi d'une œuvre d'art qui est aussi ce potentiel d'être aussi un objet dont on donne une valeur. Mm-hmm.
Ouais. Donc c'est des réflexions qui amènent à sortir du cadre de la production artistique, où c'est quelque chose qui est censé être confiné à une performance, ou vous avez cette prétention, j'ai envie de dire, de poser certaines questions qui renverraient vers d'autres domaines et qui resteraient pas donc confinées à l'art, ou... Par exemple, valuation, vous pouvez en parler un petit peu. Sur le site, c'est beau parce que vous tenez chacun, toi la couverture, et je pense que Valentina la quatrième de couverture de Monet de ce bouquin. Je trouvais ça assez beau.
Qui ai pris la photo, mais c'est pas moi qui c'est une tierce personne qui tient avec Valentina.
Je pensais que c'était toi. D'accord. Okay. Je trouvais ça assez beau que, en plus vous êtes caché derrière et on devine juste les mains. Des mains d'hommes et des mains de femmes.
Ouais. Je crois que c'est les mains de deux femmes.
Je crois, oui, aussi que ce sont les mains de deux femmes.
D'accord, bon, bah voilà. Bah, c'est assez beau aussi, ces erreurs, ces lapsus, je trouve.
Ouais. Non, mais bon, enfin, évaluation, oui, alors pour le coup, c'est un programme de recherche qui porte sur les questions de valeur, de valorisation et d'évaluation, pour le dire rapidement, notamment à travers l'art, mais de manière plus générale, dans les différentes disciplines qui existent en vérité. Et puis évaluation, c'est né d'un, enfin ça a été fondé après un séminaire que j'avais initié avec Jacques Folle, qui s'appelait Passion argentique. Donc là, on revient un peu à l'argent. Mais donc voilà, c'est de... En l'occurrence, l'idée de ce séminaire, c'était effectivement penser l'argent et la monnaie aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait essayer d'en dire en 4 séances sur une année, en invitant un théoricien, un philosophe. Moi, j'étais intervenu. Après, il y avait 2 économistes et puis plutôt une historienne, quelqu'un qui travaillait sur l'Antiquité. Voilà, donc, mais bon, c'était trop rapide, évidemment, donc il y a encore plein de choses à en dire. Mais il se trouve qu'ensuite, eh bien, une partie des personnes qui avaient été réunies autour de ce séminaire se sont constituées en groupe de recherche et ont décidé de travailler sur la question de la valeur. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Il n'empêche qu'à titre tout à fait personnel, moi ce qui m'intéresse c'est l'écriture, comme je te disais tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu à cet endroit fort.
À cet endroit dans d'écrire sur l'argent, la monnaie, tu veux dire?
Non, de considérer l'économie et la finance comme des littératures à part entière.
D'accord.
Et de voir que c'est... Moi, je pense... j'allais dire... je suis quelqu'un qui manie le langage, quoi, tu vois. Donc pour moi, beaucoup de choses sont rattachées au langage. Donc l'économie et la finance, j'ai envie de dire, c'est un langage, quoi. Mmh. C'est un langage comme un autre, qui a ses caractéristiques, et son écriture, sa littérature.
Son jargon.
Son jargon, évidemment, mais c'est souvent que ça qu'on retient. Mmh. Et du coup, voilà, voir de le déployer un petit peu, et comme quand on fait de la grammaire avec de la syntaxe, quand on étudie une langue, voir jusqu'à un alphabet, et bien voir comment c'est constitué tout ça. Parce que les langages, ils ont évidemment des effets, enfin je veux dire, c'est des choses basiques hein, de dire ça, mais donc l'économie et la finance, ben, elle a des effets qu'on vit, qu'on subit tous les jours, parce que moi je trouve qu'ils sont un peu oppressants. Et donc je me sens obligé pour de les étudier. Pour comprendre comment ça fonctionne, quoi. Mmh. Voilà, enfin, c'est un peu ce genre de... C'est pour ça que je te dis que ça... Voilà, je considère que l'écriture de ce monde économique est très importante à démêler, en tout cas. Mmh. Enfin, c'est important d'essayer de la démêler. Quand j'écris, tu vois, il fait beau, je fais de la littérature, enfin je fais de l'écriture, je fais de la littérature, je me sers d'une langue, voilà, tout ça. Bah là, en tant qu'écrivain qui est dans un monde que j'estime être largement déterminé par l'économie et la finance, eh bien j'essaye d'arriver à cette simplicité-là, d'un bout de phrase comme il fait beau, ou il ne fait pas beau aujourd'hui, il pleut. Donc j'essaye de mettre ça en littérature, en fait.
D'accord, d'aplatir, on va dire.
Oui, d'une certaine manière. Mmh. Et puis bah, quand on dit il fait beau, on sait très bien que si on se le dit, et bah, c'est qu'on partage quelque chose, une certaine expérience du monde, et là c'est évident, enfin tu vois. Sauf que pour l'économie et la finance, bah on sent que c'est là, mais on n'a pas cette proximité, cette évidence. Or, à mon sens, si on veut produire ou faire bouger un peu, avoir un regard un peu différent sur tout ça, bah c'est peut-être pas inutile de l'approcher davantage.
D'accord. Tu t'intéresses aussi à ce domaine de la finance et de l'économie, ça, c'est quelque chose qui te parle aussi. Tu as investi dans cette recherche ou
Peut-être moins que moi, d'une manière moins investie sans doute que celle que je perçois de Antoine, mais d'une certaine manière, ça m'intéresse évidemment parce que c'est très présent, on ne peut pas composer en étant ignorant en tout cas. Et j'aimerais bien, je pense que faire les comptes, ça peut être une forme de structure comme la grammaire d'une langue. Et comme moi j'ai appris la langue de manière sonore, par exemple, mon rapport à la langue française n'était pas sur un sol très solide. Donc j'ai compris un jour que j'aurais plus d'assurance, d'expression, si j'avais le sol moins flou après.
C'est marrant que tu parles de comment dire, d'une langue comme ça par rapport, enfin en ayant cette, en utilisant ce rapport au sol, ça, je trouve ça assez beau.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une question.
En plus, pour une patineuse, oui. C'est... enfin, je dis toujours patineuse, mais tu m'as dit un jour que je te voyais que comme une patineuse, mais vous voyez ce truc, mais pas du tout. Et je trouve ça très beau, d'ailleurs, ce rapport au sol, comme tu le parles. J'ai tout de suite envie de te poser la question, tu écris en bulgare ? Est-ce que la littérature bulgare, ou est-ce que tu as été déjà tenté de
te rapprocher ? Non, j'ai emprunté ou quasi emprunté le titre d'une vidéo performance à Valentina qui s'appelait Vini Gigoutov avec un point d'exclamation, qui est une très belle vidéo performance. Et moi, j'ai utilisé Vini Gigoutov mais sans point d'exclamation pour intituler un livre, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est d'une certaine manière, bon, c'est écrit en latin, c'est pas écrit en cyrillique. Mais donc ça par exemple, après c'est sûr que ça fait longtemps moi que je me suis rendu compte que à partir du moment où je vais dans un pays qui utilise une langue différente, enfin une langue, ça pourrait être au Québec, hein, le québécois c'est, ou en Belgique, je sais pas, et ben je vais avoir mais c'est une question de rapport au présent et de rapport à là où tu es. Je crois que je vais avoir envie de m'y mettre à écrire dans cette langue et à la parler. Après, là, je suis à un stade où je me réfrène un peu. Enfin, ça doit être inconscient, mais je peux le rendre un peu conscient. Je crois que je me réfrène un peu par rapport à la langue bulgare, par exemple. Alors après,
Que c'est un autre alphabet, parce que
non, papa.
C'est une autre sonorité, etc.
Non, c'est parce que j'ai envie d'écrire en français là.
D'accord.
Il faut que je le fasse en français, quoi.
Tu penses pas que l'expérience ignorante d'une langue ou au stade zéro, degré zéro, de débuter dans une langue, c'est pas une manière assez intéressante aussi d'aplatir, comme tu disais, et de voir le monde comme avec cette phrase « il fait beau ».
Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi, tu vois, une approche intéressante
ouais,
par rapport à ça, justement, à l'écriture, à la littérature,
d'en
venir à l'essentiel par obligation, quoi.
Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais après, il se trouve que, bon, sinon je pourrais écrire en franco-bulgare, mais bon, peut-être qu'un jour je vais arriver à ça, ça pourrait être très drôle.
Tu écris en anglais aussi, pardon, t'interromps, mais bon, c'est autre. C'est
pas... Oui, j'écris en anglais, c'est déjà toute une histoire de réussir. J'ai a priori un livre qui va sortir avec peut-être 20 ou 30 pages d'anglais, mais un livre en France, par un éditeur français. C'est quand même toute une histoire de réussir ce genre de choses, enfin, enfin réussir, tu vois, modestement. Hein. Donc voilà, ce livre qui s'appelle Vini Gigoutov, évidemment, c'est imprononçable pour la plupart des gens, ou en tout cas, ils se disent que c'est imprononçable. Donc, c'est quoi ton dernier livre, Vini Gigoutov ?
Toujours prêt.
Toujours prêt.
C'est un slogan.
Ça veut dire toujours prêt ?
Oui, c'est un slogan qu'on devait prononcer tous les matins, étant écolier bulgare pionnier, en faisant un geste par-dessus de la tête, en se dressant debout, en disant Vini Gigoutov !
Ça se prononce comme ça ?
Oui.
D'accord.
C'est toujours prêt. Always ready. Mm-hmm. Apparemment, non. Pardon.
Non, mais voilà, après, sur le, tu vois, il y a par exemple, il y a un moment donné, je me suis dit, et d'ailleurs, le livre n'est pas sorti encore, donc j'ai un autre titre de livre qui regroupe plusieurs livres. C'est toujours un peu compliqué ce que je fais. Qui s'appelle Leak. Alors Valentina, ouais, ouais. Tu le dis comment toi en bulgare?
Lik.
Ouais.
Ah mais Lik c'est du bulgare?
Non, c'est Lik.
Lik, d'accord.
Voilà. Et ça s'écrit évidemment en cyrillique. Moi j'ai le projet d'écrire si jamais je sors un jour ce livre avec les quatre livres qu'il y a dedans, j'aimerais bien que sur la couverture ça apparaisse en cyrillique, tu vois.
D'accord.
Donc il y a un jeu en tout cas entre les deux. Et en fait, évidemment, je joue beaucoup de ça avec Leak, la plateforme de recherche, LIC pour le coup, mais qui signifie autre chose. Donc tu vois, il y a un jeu aussi à ce niveau-là, mais qui est là poly. Comment on dit d'ailleurs ? Oui, mais je voulais parler de langue poly.
Polyphonie ?
Langagière, non ?
D'accord.
Je sais pas, ça m'échappe. Voilà, enfin tu vois, il y a ça. Donc là aussi, c'est une manière d'aplanir et en même temps de. Il y a bien un moment donné où il faut redonner un peu de relief à tout ça, quoi. Mm-hmm. Enfin, il faut. Donc, c'est un peu ça aussi les enjeux. Mais par exemple, avec Valentina, on avait fait une performance à Sofia, justement autour de un petit peu de Vini Gigoutov, enfin, aussi bien de sa vidéo performance et du livre aussi. Et moi, je lisais en français à Sofia. Et pendant ce temps-là, toi, Valentina, tu chantais notamment en bulgare, mais pas que. Donc tu vois, il y avait cette... on l'a fait comme ça, en fait.
Ouais, ouais.
Traduire. Ouais.
Votre duo, en fait, il a... Votre travail en duo a un nom bulgare aussi, si j'ai bien compris.
Oui. Lipovda.
Ouais, okay. Voilà.
C'est une invention aussi d'Antoine.
Mais non,
c'est un nom. Un... Oui, c'est un peu un nom, mais c'est vrai que... Lipovda, en bulgare, veut dire l'amour.
Mm-hmm.
Et effectivement, c'est l'idée d'Antoine qui a changé le T avec un D, qui devient Lubovda, un néologisme qui signifie...
Bah oui, amour. Amour,
amour
oui.
Oui. Amour, puisque oui. Da, voilà, c'est comme
en russe. Non, mais après, en... amour, oui, c'est amour, en russe. Oui. Ou en bulgare, ça marche en bulgare et en russe. Mais c'est un néologisme. Et, c'est un... et moi aussi, enfin moi qui adore l'allemand, tu vois, Da en allemand, c'est ici aussi. Mm-hmm. Ouais. Donc amour ici, enfin du bien, c'est polysémique, ouais.
Ouais. C'est ce que tu voulais dire.
Ouais.
Mm-hmm. Ah, polysémique. Mm-hmm. Mm-hmm. Et moi je pensais à ton... ce que tu appelles la littérature amorale. Je suis très attachée à cette... cette... comment tu le définis, cette définition. Et, je pense soudainement à Frankistan, qui est un autre performance.
Ouais. Non, mais qui est, pourquoi
justement... ouais. Non, parce que Frankistan, justement, c'est un autre néologisme qui définit les deux zones de nos deux pays respectifs, à distance respectable. Voilà. Qu'on intitule cette distance entre la France et la Bulgarie, ou en tout cas les deux pays, on l'intitule Frankistan.
Frankistan.
C'est un personnage qui l'intitule comme ça, mais il y a beaucoup de circulations et de passages, justement, des niveaux, des lectures de niveaux différents entre différents territoires, de la langue, donc différents niveaux sonores, mais aussi différents. Traversée entre ce qui est dans la fiction, des personnages qui traversent de nombreuses frontières. Et il y a une sorte de va-et-vient aussi, puisqu'il s'agit aussi d'une histoire entre un homme et une femme, un homme qui change de sexe, qui change de pays, qui change beaucoup de choses. Mais voilà, c'est. Dans Frankistan, j'ai l'impression que notre duo Lubovda avait une sorte de. Je sais pas comment on peut appeler ça, un ton
un ton
ouais
mais parce que Frankistan dans ce qu'on a fait c'est finalement c'est ça apparaît au moment d'un deux personnages sont dans un avion entre la Bulgarie et la France, enfin, c'est situé comme ça en tout cas, ils survolent l'Italie, et à ce moment-là survient le nom Frankistan, qui est effectivement ce que décrivait Valentina. Mais alors du coup, ça sonne beaucoup France, mais Istan, ça fait référence à une certaine histoire de la Bulgarie qui veut que... y a une partie des Bulgares, enfin il y a je vais caricaturer sûrement parce que je suis pas un spécialiste, mais il y a une partie de, enfin la fondation de la Bulgarie, c'est, on pourrait dire que c'est des gens qui viennent à la fois du Pamir, donc de l'Asie et de tous ces pays qui sont en stan, puisque stan ça veut dire pays, ça veut dire enfin être là, quoi, enfin dans un coin, quoi, quelque part, et les Slaves, enfin qui sont descendus de, je sais pas si c'était les Slaves à l'époque, les proto-Slaves peut-être. Qui sont descendus plutôt de ce qui serait aujourd'hui la Pologne.
Et donc,
c'est la Bulgarie, c'est un peu ces deux mouvements-là, quoi, de population. Et donc, c'est pour ça que c'est stan, en fait.
D'accord.
Après, c'est aussi l'afghan à cette langue, parce qu'on s'était trouvé dans un taxi de l'Institut français qui nous a conduit entre Bourgas et Varna par un afghan qui parlait cette langue, marié une femme bulgare. Et qui aussi s'est préoccupé de l'immobilier, de nous vendre des parties de la mer Noire pendant le trajet.
Oui,
donc c'était quand même ce que je vous dis aussi pour Frankistan, la littérature morale et tout ça, c'est que c'est des questionnements littéraires, mais aussi cette question de la finance, de l'argent, les personnages, ils se préoccupent beaucoup par la question de l'égalité, de manger, de chercher à manger, de comment circuler, effectivement, la question de nos voitures et de la circulation, que ce soit de l'argent, de la parole ou de des corps importants, des véhicules, des objets mobiles, de la mobilité.
Puis toi, en fait, tu travailles aussi beaucoup à partir de langues. Enfin, c'est pour ça
que de langues.
Oui, de langues. Enfin,
de deux langues, tu dis de deux langues, de la langue.
Les deux. Mm-hmm. Tu vois, enfin, mais tu l'as relevé à l'instant là quand t'as parlé du patinage. Enfin, pour moi, c'est une et du rapport au sol, etc. Enfin, voilà, ça, c'est du langage. Alors après, on n'utilise pas les mêmes langages. Enfin, si, mais de manière saillante, ce sont pas les mêmes qui enfin, c'est pas les mêmes qui paraissent saillants, mais en fait, voilà, c'est comme voilà ce qu'on est en train de faire. Tu vois, tu donc voilà, c'est ce qu'on fait un peu ensemble.
Mm-hmm. On peut parler de calcul au sol, comme calcul à l'air. La voix, c'est quelque chose qui, pour moi, calcule ce qui est en haut dans l'air et qui se propage dans un volume, et même qui est un volume et sonore. Et les patins, pour moi, c'est une forme de calcul au sol. Et la langue aussi, c'est des formes de.
Moi, ce qui m'a toujours. Je pense que le patinage est peut-être lié aussi à cette idée qu'on retrouve beaucoup dans la danse, qui est de faire en sorte que. Enfin, moi, je parle plutôt de la danse classique, là, dans ce que je vais dire. Et on retrouve ça aussi dans la gymnastique, dans toutes sortes de gymnastiques. C'est d'essayer de faire en sorte que la gymnaste ou la danseuse ou le gymnaste ou le danseur paraisse en lévitation, paraisse ne pas toucher le sol, ou le sol est juste un tremplin pour l'élévation et pour la. Et comme s'il fallait à tout prix échapper à cette emprise et à cette force qui rappelle en fait. Le fait d'avoir, quand tu as dit ce rapport au sol, je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose aussi est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans votre travail aussi, ce rapport de lévitation ou non par rapport au sol, ou d'ancrage au sol, c'est quelque chose qui est présent dans votre manière de concevoir le travail ou pas du tout? Ou le patinage, l'écriture, la réflexion, le sol, enfin, au-delà de sa représentation figurée, le sol comme patrie, etc. Est-ce que la matière sol, est-ce que le sol... Par exemple, je vois vos livres sur le sol, ils sont là. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie de façon consciente? Pas du tout, c'est juste une réflexion comme ça, un peu saugrenue, hasardeuse de ma part.
Ah mon Dieu. Pour moi, pour ma part, c'est tu allais tout droit des questions qui sont posées, oui. Puisque pour moi, j'aime bien ton idée de lévitation, évidemment, quand mon corps il se déplace en patinant, il n'a plus du tout le même rapport avec son poids et sa gravité, et même mon rapport au monde change complètement. Presque, il y a une forme de légèreté. Se déplacer effectivement comme un esprit si on ne voit pas les patins. Après, évidemment, il y a le lien avec la danse. Moi, j'étais très attachée à la danse classique dans les pays soviétiques. C'était quelque chose d'important, omniprésent, comme le patinage artistique ainsi que ce qu'on appelait les gymnastiques plastiques, ou je ne sais plus
comment,
acrobatiques, mais aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Rythmique.
Rudogestvena gymnastique, c'est la gymnastique plastique, quand on joue avec les balles. Et...
Rythmique voilà. Non mmh. C'est pas gymnastique.
Non, je ne sais plus comment. Oui, rythmique aussi.
D'avant, non.
Mais je sais plus.
GRS, non, rythmique et sportive.
Ah oui, ouais, t'as raison.
C'est gymnastique,
rythmique et sportive, je crois.
Ouais, je crois, ça va être ça.
Mais pour revenir à cette histoire de sol, en effet, je me souviens que quand j'ai fait mes études à Nice, je sais plus et j'avais trouvé dans un conteneur un morceau de sol, vraiment un vrai bout de béton avec des tomates. Et justement, j'avais tout le temps l'impression de glisser, que tout m'échappait, même sans patin roulette. Et j'étais contente de voir. Donc, il était assez lourd, j'ai trouvé moyen de le récupérer. et je l'avais mis sur plusieurs billes, comme ça. Du coup, ça faisait comme un petit morceau de sol bien épais. Et du coup, le sol même était en train de glisser dans les billes.
Et tu patinais dessus?
Les billes, non. Là, c'était une sculpture, mais, que j'ai appelée sol, tout simplement. Mais c'était en l'an 2000. Ouais. Mais...